Donc, si vous voulez, on va essayer de prolonger un peu ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, c'était plutôt les solvants, qui sont donc des psychotropes qui donnent une certaine ivresse, qu'on a vu, avec un chef de file qui est l'alcool, l'éthanol en tout cas, et qui nous est un peu cher du fait de notre culture, quoi. Alors bon, donc si on a intégré notre culture, on sait boire l'alcool, à condition que ce soit du vin, et qu'on utilise avec modération. Alors bien entendu, il en va de même pour les autres substances, bien sûr. Et donc la deuxième partie que je voudrais abordé cette fois, c'est sur les hallucinogènes. Donc, comme leur nom l'indique, ce sont des substances psychotropes, donc qui agissent sur le cerveau et donc surtout sur l'esprit, et qui donnent des hallucinations, voilà, qui génèrent des hallucinations. C'est ce que veut dire hallucinogène. Alors, c'est une famille un petit peu buissonnante, un peu vaste. Et pour essayer de comprendre, j'espère assez bien, il est nécessaire de considérer trois grandes familles, avec la dernière famille qui va être une super famille. Voilà, c'est-à-dire, bon, on va faire un grand sac et puis on en rajoutera. Donc, la première famille, c'est ce qu'on appelle les cannabinoïdes. Donc, bien entendu, cannabinoïdes, comme le nom l'indique, hein, cannabis, donc c'est le chanvre indien, et puis oïde, ça veut dire qui a la forme ou qui s'apparente aux éléments du cannabis. Voilà, donc en gros, cette première famille, bon, on en verra une surtout, enfin on verra une des substances, est issu du chanvre indien. La deuxième famille, eh bien, elle est issue d'une autre plante, encore, c'est le peyote, c'est-à-dire, le peyote, c'est un cactus mexicain, mais il y a bien entendu beaucoup de cactus, et bon, alors on va prendre le peyote comme chef de file, et le principe actif de ce peyote, c'est ce qui se trouve dans tout le cactus, mais plutôt dans les bourgeons, qui en indien aztèque ou je ne sais quoi s'appelle mescal, d'où la substance qu'on a pu tirer, c'est la mescaline. Et puis il y a un certain nombre de dérivés, bien sûr, qu'on va essayer de voir. Voilà, donc cannabinoïdes d'une part, la famille de la mescaline, deuxième temps, et puis troisième, alors là on n'aura pas le temps de l'aborder cette semaine, donc on finira la semaine prochaine avec peut-être cette deuxième famille et puis la troisième, qui est la famille de la psilocybine. Alors, psilocybine, tout commence avec plutôt toujours au Mexique, décidément, l'Amérique latine nous a fait beaucoup de cadeaux, non seulement l'or, mais aussi le chocolat, et enfin beaucoup beaucoup d'hallucinogènes. Donc ce champignon s'appelle Psilocybes mexicanum, et le principe actif qu'on va essayer de voir un petit peu, d'autres choses, eh bien, c'est la psilocine ou la psilocybine. Il y a deux termes, il suffit de rajouter une molécule de phosphate pour. Mais ça c'est connu depuis longtemps, mais peu à peu se sont rattachées d'autres plantes, toujours qui avaient des propriétés communes avec la psilocybine. Et donc on va les incorporer, et puis je vais vous donner un petit peu les qualités au fur et à mesure, et puis bien sûr ensuite ça nous a amené avec quelque chose qui est tout à fait inattendu, C'est l'ergot de seigle, pour faire très simple, c'est-à-dire l'acide lysergique et le diéthylamide de l'acide lysergique, le LSD. Donc, voilà. Alors, donc cette superfamille psilocybine et compagnie, finalement toutes ces substances ont un point commun, ont plusieurs points communs, mais un point commun fondamental pour un chimiste en tout cas, c'est que à l'intérieur de leurs molécules, il y a un noyau indole. Alors vous ne connaissez probablement pas, mais bon, c'est une donnée et qu'il va falloir un petit peu intégrer. Et ce noyau indole, finalement, c'est la structure de base qui permet de comprendre son action, tout simplement parce qu'elle s'apparente à une molécule qui vous est familière, si vous m'avez écouté depuis quelque temps, c'est la sérotonine. Donc la sérotonine, c'est un neuromédiateur qui se trouve en grande quantité dans le cerveau et qui a beaucoup de fonctions. On l'a vu abondamment quand j'ai parlé des antidépresseurs en particulier, mais c'est quelque chose de très très important dans l'établissement du sommeil, le sommeil lent, à onde lente plus exactement, et ça aussi beaucoup d'incidences sur la sexualité, beaucoup de nos comportements sont sous la dépendance d'une certaine quantité de sérotonine. Voilà, alors donc, bien sûr, je reviens un peu en arrière, la deuxième famille, celle de la mescaline et compagnie, eh ben finalement, elle aussi, pour qu'on puisse comprendre comment elle agit, ben c'est une analogie avec un autre neuromédiateur, et cette fois l'autre neuromédiateur, c'est la noradrénaline. Alors la noradrénaline, elle aussi, vous devez être familier, elle sert à beaucoup de choses dans notre cerveau, mais d'abord, essentiellement, c'est un neuromédiateur qui est sécrété en grande quantité dans les états de stress. Voilà, alors, habituellement, quand on parle de stress, on dit une décharge d'adrénaline. Eh ben, pendant longtemps ça marchait, c'est-à-dire en 1960 ça marchait l'adrénaline. Et puis petit à petit on s'est aperçu que c'était pas l'adrénaline elle-même, mais un précurseur de l'adrénaline, la noradrénaline, et que l'adrénaline n'est jamais qu'un sous-produit de la noradrénaline. Donc voilà, les états de stress, donc quand vous avez des traumatismes, bien sûr, et puis quand vous êtes réveillé en ce moment là, voilà, ou hyper en hypervigilance. Voilà, dans tous ces cas-là, vous avez de la noradrénaline en grande quantité qui fonctionne, et si jamais il y a un dysfonctionnement, alors à ce moment, vous avez d'autres soucis. Et puis, si je remonte encore jusqu'au départ de ce que j'ai dit, eh ben, la famille des cannabinoïdes, eh ben, c'était les grands orphelins pendant très longtemps, et les sommités ont écrit beaucoup d'articles en disant, ben voilà, on ne sait pas qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans, mais... Et puis, depuis 1990, 92 et après, on s'est aperçu que les cannabinoïdes, eh ben, eux aussi, s'ils agissent, c'est tout simplement parce que il y avait un neuromédiateur, en quelque sorte, qui agissait dans le cerveau. Alors on l'ignorait complètement, mais c'est ces études-là qui nous ont permis de le découvrir. Et donc, maintenant, on dit, on a renversé la proposition, c'est-à-dire les cannabinoïdes agissent simplement parce qu'ils viennent à la place de ce neuromédiateur naturel, en quelque sorte. On dit endogène, c'est-à-dire qui est fabriqué à l'intérieur du cerveau. Donc, j'espère pas trop vous perdre, donc je vais reprendre. Donc, on va dire que les cannabinoïdes sont des agonistes, c'est-à-dire agissent de la même façon qu'une substance endogène, c'est-à-dire qui est fabriquée par le cerveau, qui va servir, qui sert à beaucoup de fonctions, qui sont encore assez trouble, assez un peu indéfini, mais enfin bon, on commence déjà à avoir quelques idées, j'y reviendrai. Et ce nom, le nom de ce neuromédiateur, c'est l'anandamide. Je le définirai un peu mieux. La deuxième famille, la mescaline, eh bien elle, si elle peut agir, eh bien c'est tout simplement parce qu'elle a une analogie de structure avec la noradrénaline. Et enfin, la psilocybine jusqu'au LSD-25, eh bien si ils sont efficaces, ces hallucinogènes, c'est tout simplement parce qu'ils viennent à la place de neuromédiateurs endogènes, c'est-à-dire qu'ils sont là et vont prendre la place de ce neuromédiateur. Dans quoi ? Bah, dans un récepteur de ces neuromédiateurs. Voilà. C'est-à-dire, c'est une notion qu'il faut arriver à apprivoiser, que si une substance agit dans le cerveau, et plus particulièrement dans l'esprit, il y a une condition express, c'est qu'il y a un récepteur pour cette molécule. S'il n'y a pas de récepteur, ça ne sert strictement à rien, il ne peut pas avoir d'effet sur le fonctionnement du cerveau, et donc ça ne peut pas avoir, à plus forte raison, d'effet sur l'appareil psychique. Donc toutes les fois, mais c'est pas toujours qu'on fait ce raisonnement, hein. C'est après coup, une fois qu'on a tâtonné beaucoup, on dit mais merde, il sait qu'il y a un récepteur. S'il y a un récepteur, je vais le chercher, et si je le cherche, je le trouve. Ah, voilà, c'est pas plus sot que ça. Mais la plupart du temps, on a d'autres impératifs. Donc voilà, c'est un petit peu cette histoire que je vais essayer de vous raconter. Donc d'abord la première famille, les cannabinoïdes. Voilà, alors donc, cette famille, si elle est hallucinogène, c'est tout simplement parce qu'elles ont une structure qui est très très proche d'un neuromédiateur endogène qui s'appelle l'anandamide. Voilà. Donc, alors, explorons un petit peu cette famille, les cannabinoïdes. Donc, ils sont tous dérivés du chanvre indien. Voilà, c'est cette plante-là, Cannabis sativa, qui vient des Indes, et c'est pour ça qu'on l'appelle aussi Cannabis indica, mais l'indica est un petit peu plus petit, il ne dépasse pas 1,50 m. Par contre, Cannabis sativa, il fait 2 mètres et quelques, on peut se cacher dans les champs de cannabis, quoi. Et puis, marche au radar, au bout d'un moment, boum, vous tombez dans les bras de Morphée, et puis, voilà, alors bon, vous avez les argousins qui vous courent après. Mais bien entendu, ça c'est la belle époque, quoi, hein, quand on allait en Yougoslavie. Sur la route des Indes, quoi, en gros, hein, bien sûr. Et que donc, voilà. Et entre-temps, bien sûr, les petits malins qui ont récupéré des graines, surtout des Hollandais, bien sûr, parce qu'ils disent, oups. Cultiver des tomates, c'est sympa. C'est quand même pas. Enfin, bon, j'adore les pomodores, mais enfin, c'est quand même pas l'éclate, quoi. Faire la sauce tomate, quoi. Et donc, ils ont appliqué les techniques de pointe, si j'ose dire, pour sélectionner des plantes de cannabis sativa, et ce qui faisait avant 2-3% de THC, c'est le principe actif, se met maintenant à faire 50-60%, quoi. Alors, bon, c'est des monstres, en fin de compte, quoi, voilà. Et donc, du coup, ils produisent non seulement des tulipes, mais aussi des tomates, comme vous le savez. C'est le premier producteur de tomates. Et puis, du cannabis. Voilà. Alors, bien entendu, les Pays-Bas supportent de grandes pressions de l'Union européenne qui peut vous laisser vous envahir de tabac qui vous ravage, d'amiante qui vous ravage, de tout ce que vous voulez qui vous ravage, même de médiateur, sans qu'on trouve quoi que ce soit à redire, quoi, hein, pendant 30 ans, 50 ans, pas de problème. Par contre, si jamais c'est du cannabis sativa, ah sativa, pas du tout. C'est terriblement dangereux parce que ça peut rendre les gens heureux. Alors, c'est dur à avaler, quoi, hein, pour le marketing et autres ultralibéralisme, quoi. Hein, c'est-à-dire, alors, si on s'amuse à pouvoir cultiver des plantes qui peuvent éventuellement vous donner de la joie de vivre, c'est vrai que c'est tout à fait insupportable. Quoi, voilà. Le iPhone, iPod, machin, aïe aïe aïe, ça va ça. Mais pour le reste, Bernic. Bon, alors donc, bon, vous avez compris, hein, qu'il y a quand même un marché là, hein, et que il y a des. Alors je ne sais plus, le thème c'est. Oui, c'est ça, hein, c'est le pouvoir et la contestation, ben, on a vraiment nos cœurs là. Donc bien sûr, ça peut être pris sous toutes les formes civilisées, quoi. C'est-à-dire soit on l'inhale en le fumant tout simplement, soit on le mange, soit on le boit, hein, parce qu'il y a, en gros, le principe actif est surtout produit par les plantes femelles, si ma mémoire est bonne, quoi, hein. Qui sont fleuries, qui ont les sommités, donc, et c'est surtout les fleurs, donc, qui fabriquent ce THC, et puis ça tombe sur les feuilles. Alors, bien sûr, si vous faites des infusions de feuilles, ça marche aussi, quoi, hein, et puis même la tige, si vous y allez en des gros tronçons, vous pouvez aussi extraire, etc. Et puis, bien entendu, il y a une résine, alors c'est possible de la reconcentrer, de faire tout un tas de choses, de faire des gâteaux, de faire ma jaune si ma mémoire est bonne, etc. Et puis l'herbe, tout simplement, l'herbe c'est les feuilles, quoi, en gros, qui ont bien sûr qui ont plus de produits actifs au fur et à mesure où on monte, il faut monter assez haut, donc ben, le mieux c'est encore de les couper, quoi, pour y accéder. Voilà, donc ça c'est assez facile. Dernier élément, ben, ce sont les noms que vous devez connaître, hein. Alors, bon, bien sûr le cannabis, le hashish, marijuana, l'herbe, tout simplement, si on fait plus simple, la ganja, ça c'est le nom qui est en Inde, le pot, et puis le monde anglo-saxon ou anglophone parle plutôt de trucs qui est un peu merdique, quoi, hein, c'est le shit, quoi, tout simplement. Et puis, comme la plupart des francophones parlent d'herbe, des fois c'est un peu long l'herbe, alors pour économiser l'énergie, on dit hache, tout simplement, quoi, voilà. Bon, voilà, en gros, ça doit vous donner une petite idée de ce que c'est, voilà comment ça se présente. Donc, oui, c'est la même chose. C'est à droite, hein, surtout les pieds femelles, là, qui sont un petit peu plus fournis, qui donc sont plus intéressants. Alors, on va prendre un petit peu de recul cette fois. Ce chanvre était en vente libre jusqu'à la catastrophe, quoi, c'est-à-dire jusqu'à Reagan, il me semble, hein. En gros, hein, parce que à tel point que dans le codex, si vous cherchez, le codex c'est le répertoire des produits pharmaceutiques, quand vous cherchez, vous trouvez qu'il y a beaucoup de médicaments qui contiennent du cannabis. Voilà, c'est-à-dire, bon, pendant des millénaires, pour dire probablement 2 millions d'années, l'humanité s'est contentée de fumer, de manger, de brouter du cannabis. Et puis soudain, alors là la catastrophe elle se situe en 1971, tout un tas de raisons, la FDA et la CIA ont décidé que ça n'était plus possible, c'était vraiment trop dangereux, et donc aux États-Unis il y a eu une interdiction sur ces substances qu'on appelle d'une façon générale les hallucinogènes, et pour que ça soit bien entendu par tout le monde, eh bien on a décidé que ces hallucinogènes allaient faire partie des stupéfiants. Voilà, alors bien sûr quand on dit stupéfiants, bon, quand on les connaît un peu, dépendance et puis tolérance, avec tous les problèmes de sevrage que ça entraîne, bien entendu, c'est un épouvantail, quoi. Donc, ce ne sont pas des stupéfiants, désolé de contredire les autorités, mais comme ce sont des soi-disant des stupéfiants, c'est interdit d'en parler. Donc, presque personne n'en parle. Alors, par chance, on a une petite période d'accalmie. C'était à l'époque où Bernard Kouchner était ministre de la Santé, ou équivalent délégué, je ne sais pas quoi. Et il a demandé un rapport au bon docteur Rock, Bernard Rock, de lui faire un rapport sur la dangerosité des drogues. Voilà, alors là, le père Rock s'est mis au boulot, puis il a fait une synthèse de tous les griefs qu'on pouvait faire aux drogues. Voilà, et honnêtement, il n'y a rien à redire. Bon, il passe tout en détail, le tabac, l'alcool, les opiacés, machin. Chapitre 10, pas de peau, c'est le cannabis. Il n'arrive pas à trouver pratiquement de grief à faire, quoi. Bon, alors, bon, ben, d'accord, merci. Merci la Milde. À l'époque, c'était Nicole Mistrachi qui était la directrice. Donc, et puis ensuite, quand la gauche a perdu le pouvoir, bien entendu, on a vite foutu en l'air la Milde, là, avec toutes ces conneries, là, et on a enterré le rapport Rock, ce qui fait que on a repris la répression sur les hallucinogènes. Heureusement, il y a encore un certain nombre de traces dans la législation qui fait que bon, la maréchaussée n'est pas trop tatillonne, encore que si vous avez un petit bout de shit, en gros, bon, vous avez un savon qui vous est attribué, un shampoing plutôt, alors bon, ça fait quand même, bon, ça peut être quand même plusieurs euros au poste. Après, si vous êtes mineur, c'est les parents qui doivent venir vous chercher, et puis si vous avez une barrette grosse comme ça, alors à ce moment, vous êtes déféré à la justice, et puis là, bon, les juges sont assez coulants, disant, oh, quand même, c'est la première fois, vous avez l'air bien gentil, bon, alors, je vous affecte à une sorte d'éducateur, je ne sais plus comment on l'appelle, mais c'est le SPIP qui s'occupe de ça, bon, je vous en reparlerai peut-être un peu. Alors, SPIP, ça veut dire, je ne sais plus quoi, c'est le truc plus ou moins par rapport à la justice. Et donc, en général, plutôt que de mettre ces jeunes, ben c'est surtout les jeunes, hein, enfin c'est surtout les adolescents, je reviendrai dessus, qui sont pris en train d'acheter quelques copeaux, alors en ce moment on les oblige à faire autre chose que de la prison, ou il y a des amendes maintenant, mais bon, ce qui est prescrit en général, c'est une thérapie, ou tout du moins un entretien, des entretiens avec un psychologue, ou une structure qui comporte des psychologues. Voilà, et bon, c'est en général un point écoute, il y en a plusieurs dans la région de Lyon, qui reçoivent ces jeunes, et bon, ils agissent comme des psychologues, dont je fais partie, donc j'ai fait partie d'un point écoute, j'ai fait un stage l'année dernière, et donc bon, on ne s'autorise pas à trop être exigeant, parce que pour faire une thérapie qui fonctionne, il faut que la personne soit d'accord. Or, le jeune en question est d'accord pour venir nous voir une fois, puis après, il s'en dispense, quoi, en gros. Bon, donc du coup, il y a une espèce de contradiction. Au lieu de faire 3 jours ou 10 jours de prison, c'est un entretien avec un psychologue. C'est, bon, peut-être un petit peu juste comme méthode, mais enfin bon, il y a des choses qui se passent. Dans un entretien de 3 quarts d'heure, on arrive un petit peu à peut-être remettre un petit peu d'ordre dans la maison. Mais enfin bon, voilà, je reviendrai dessus cette question, si j'ai des questions. Donc, si on fait un bond en arrière, eh bien il y a un homme qui était, on va dire, un aliéniste à l'époque, qui maintenant, on dirait un psychiatre, quoi, en gros, et c'est Moreau de Tours. Donc voilà le visage, 1845, pour situer. Alors je ne sais plus très bien sa biographie, il était à Bicêtre, puis ensuite à Ivry, Je ne sais plus tout à fait si c'est vrai ou pas. Je ne sais pas s'il a fait partie de l'expédition en Égypte ou pas, ou en tout cas il a eu des informations assez précises sur ce qui se passait en Égypte. Et donc, il s'est intéressé à l'usage du cannabis, du hashish. Voilà, donc Jacques-Joseph Moreau de Tours. Voilà, et il étudie plusieurs choses, hein, il a plusieurs marottes, les effets du hashish, l'étiologie de l'épilepsie, et aussi la folie, hein, dans les asiles. Il s'intéressait aux patients, qu'on appelait les fous à l'époque, et voilà, il sort un condensé de son travail, la folie et le rêve de l'homme éveillé. Alors, du côté du sommeil, c'est tout à fait vrai, de tout ce qu'on peut étudier sur le sommeil actuellement, en tout cas le sommeil paradoxal, je veux dire, c'est très très bien vu. Mais bon, c'est pas mon propos, je l'ai traité le sommeil, mais c'est une vérité première. Alors bien entendu, il s'intéresse beaucoup au hashish, comme il s'y intéresse aux effets, il s'intéresse aux produits, et puis il l'essaye, puis il en parle à ses copains. Voilà, et ses copains en question sont tellement interloqués par ce hakik, comme dit Tchao Pantin, là, qu'à la fois ils forment un club, et c'est le club des hachichins. Voilà. Et ma foi, ce club se réunit à l'hôtel de Lausanne, chez Madame Sabatier, et parmi les convives de ce club, où on discute, on fume en quelque sorte, et puis surtout on ricane, on rigole comme des bossus. Alors j'ai pas amené le texte, je lis pas très bien, il faudrait que la semaine prochaine j'en amène un échantillon, mais c'est des opilons. Vous lisez de toute façon Théophile Gautier qui relate ces soirées incroyables, vous lisez Baudelaire, c'est du même tabac, hein, et vous avez Alexandre Dumas, Victor Hugo, et puis une flopée de peintres qui viennent avec leur plus joli modèle, quoi, hein, et donc ils se mélangent assez, quoi. C'est le concept de la mixité sociale, en gros. Et alors ça donne des morceaux de bravoure, hein, qu'il faut absolument lire, hein. Alors ça c'est très accessible, hein, ça se trouve dans les éditions Mille et Une Nuits, il y a des recueils en pagaille, vraiment, si vous voulez je vous donnerai la biblio, hein, parce que tu vois, on m'a demandé si le texte était sur le site, je crois que c'est ce soir ou aujourd'hui que le texte de la semaine dernière est passé, et pour ceux qui veulent, la semaine prochaine j'amènerai des polycopes, parce que ce que je raconte c'est un condensé d'un cours, et donc c'est possible d'avoir alors le texte avec la biblio et beaucoup d'autres choses. Voilà, alors notre brave Moreau de Tours, eh bien il publie sa thèse finalement du hashish et de l'aliénation mentale. Et donc, voilà, 1845. Donc on commence à bien connaître ces produits, et donc, il y a un rapprochement entre les effets du hashish et puis certains états des aliénés, quoi, en gros. Et les aliénés, auxquels on pense tout de suite, c'est ce qu'on appelle maintenant des psychotiques. Alors actuellement, le terme est mise en cause, parce que d'après les associations, c'est trop stigmatisant. Alors je ne sais plus quel est le terme qu'ils proposent, un autre terme qui soit plus neutre, parce que c'est vrai que depuis une dizaine d'années, les médias ils vont pas avec le dos de la cuillère. Dès qu'il y a un drame, tout de suite on dit un schizophrène. Il y a il y a plusieurs choses à voir, quoi, donc je ne veux pas trop insister, mais enfin, quand on dit psychotique, on a toujours au moins deux pôles, il faut voir, ce sont les personnes qui sont plutôt schizophrènes, c'est-à-dire qui ont des hallucinations, qui ont des délires, et qui ont l'esprit qui est un petit peu plusieurs personnalités, pour faire simple. Et puis il y a un autre pôle qui concerne plutôt, quand il y a des grands drames, c'est ce qu'on appelle la paranoïa. C'est aussi une psychose, là aussi il y a un clivage probablement dans la structure psychique, mais à ce moment, ces personnes se considèrent comme persécutées. Et étant persécutées, se sentant persécutés, des fois ils identifient un agresseur complètement fantasmé et à ce moment le drame peut arriver, quoi. Voilà. Donc bon, alors donc Moreau de Tours a compris que sous ces hallucinogènes qu'on appelle les cannabinoïdes et plus précisément le THC, il y a des éléments qui ressemblent étrangement à ce qu'on connaît chez les personnes qu'on appelle des fous, à l'époque. Voilà, donc c'est un rapprochement, et bien entendu, il n'a pas les moyens de pouvoir faire tous les liens, pourquoi ceci, cela. La chance, c'est que un siècle et quelques s'est déroulé, et que la biologie a fait de tels progrès que maintenant on peut reprendre tous ces éléments, et c'est ça que je vais essayer de vous amener peu à peu. Donc alors, quand on extrait du chanvre les principes actifs, il y en a beaucoup, il y a au moins une soixantaine de substances qui sont toutes issues de cette plante et qu'on appelle les cannabinoïdes. Et celui qui est en plus grande quantité, qui fait partie des cannabinoïdes, c'est le THC. Alors, THC, c'est un acronyme qui veut dire tétrahydrocannabinol. Alors, je vais vous l'expliquer, ça. Gardez cette idée THC, qui est en très grande quantité. Et puis, selon les variétés, et selon la façon de sélectionner, on va en avoir de plus en plus. Voilà, alors... Raphaël Méchoulan isole ce THC en 1960, voilà, donc c'est déjà un peu ancien, mais peu à peu, il s'intéresse, et avec d'autres équipes, il s'intéresse à ce THC. Entre-temps, les techniques, on va dire, moléculaires évoluent, c'est facile de marquer cette molécule, donc ce THC, on va lui mettre un produit radioactif dedans, un atome qui crache, et qui donc ensuite va permettre de faire incorporer ce THC par des animaux ou par des humains, et puis ensuite on sacrifie l'animal, et puis on fait une radiographie, et on voit quels sont les endroits où on trouve des grandes concentrations de THC. Voilà, alors donc, cette cuisine interne a permis de découvrir deux récepteurs spécifiques du THC, donc hein, comme on reste dans cette idée fixe, hein, pour un pharmacologue en tout cas, s'il y a une substance qui agit sur le cerveau, ça veut dire qu'il vient à la place d'une substance qui est dans le cerveau déjà, et s'il y a une substance qui a quelque chose d'assez proche, ça veut dire qu'il y a un récepteur. Voilà, et bien, ces récepteurs sont identifiés, vers 1992 je crois, il y en a deux, un dans le cerveau et puis un dans le reste de l'organisme, et ces récepteurs s'appellent CB1 et CB2. Alors, je ne sais plus pourquoi ils l'ont appelé CB, mais enfin bon, ça n'a pas d'importance, hein. S'il y avait un nom à donner pour le moment temporairement, ça serait Claude Bernard, quoi, hein. Bon, par exemple, en bon physiologiste, l'un cérébral, l'autre périphérique. Alors, cérébral, ben, tout de suite on voit que c'est sur le cortex, et plus particulièrement sur le cortex préfrontal. Dans le système limbique, ben, c'est surtout l'amygdale et l'hippocampe, c'est-à-dire en gros les centres qui vont piloter les émotions. Alors, bon, hallucinogène, machin, bon, c'est riche en émotions, et puis la mémoire, pour l'hippocampe en tout cas. Et puis le striatum, quand on dit striatum, en tout cas pour un neurophysiologiste, c'est que ça implique toute la motricité, surtout celle qui est involontaire, donc la démarche. On est un petit peu hésitant, machin. Bon, c'est le coup du striatum, quoi, hein, en gros. Et puis, là, pour déambuler, il faut aussi savoir toujours où on en est par rapport à l'espace. Et là, c'est le cervelet. Il se trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de CB1 dans le cervelet. Voilà, alors bon, ça fait, pour faire très vite, peu à peu, quand on découvre où sont situés les récepteurs du THC, on s'aperçoit que ça correspond pas mal à ce qu'on voit dans la clinique de l'ingestion de ou l'inhalation de THC. Voilà, ça colle assez bien. Et puis, il y a une deuxième partie, donc des récepteurs CB2, donc d'un autre type. Alors bon, il y a beaucoup d'interférences entre les deux, mais ceux-là sont plutôt situés à la périphérie, c'est-à-dire pas dans le centre nerveux, mais un peu à côté, et ce sont surtout dans le système qui s'intéresse à nos défenses immunitaires. Voilà, alors le thymus, la rate, le sang, etc., etc. Et là aussi, ça va avoir des implications. Et puis, toujours dans la même série, on découvre une substance, le CP55940, peu importe, c'est un nom de code, hein, qui se révèle être un agoniste de ce THC et qui a une action 100 fois supérieure à celle du THC. Voilà. C'est-à-dire on trouve, en même temps qu'on recherche, une molécule qui se trouve à l'intérieur du cerveau et qui a un effet décuplé par rapport aux substances du cannabis. Alors tout de suite, nos grands chefs se disent « Oh là, mais ça c'est super, parce qu'alors, si on pouvait avoir tous les avantages du THC, sauf les hallucinations et tout un tas de choses, bien entendu, ça serait possible de faire des médicaments, et puis de les vendre bien cher, et puis de ceci, cela, parce qu'il y a beaucoup d'effets, comme on va essayer de le voir. » Alors, donc, est-ce que ça passe? Oui, ah oui, ça passe, so bad. Alors voilà, donc notre THC, donc c'est le tétrahydrocannabinol, comme je vous l'ai annoncé, et pour s'y repérer, eh bien il suffit de voir cette formule, finalement, on peut distinguer au moins trois cycles, alors je vais essayer de les pointer là, voilà celui-ci, celui-là, celui-ci, avec un cycle qui est pas tout à fait orthodoxe, tout simplement parce qu'un cycle, quand je dis un cycle en chimiste, c'est un cycle benzénique, bien sûr, il y a 6 carbones, alors en voilà un qui est parfait, là, voilà, on reconnaît le benzène ici, celui-ci est pas très loin, par contre celui-là, il y a un problème, c'est que ça, c'est pas un atome de carbone, mais un oxygène. Alors bon, ben, c'est un hétérocycle, hein, bon. Peu importe. Toujours est-il que la structure de base, c'est celle-ci. Voilà. Trois cycles, prenons-le comme ça. Une fonction OH, oxygène et un hydrogène. Et puis, des petites oreilles de Mickey, là, par-ci, par-là. C'est ce qu'il faut prendre comme photo. Hein, voilà. Vous avez ce tricycle, en quelque sorte. Hein, on en avait parlé pour les antidépresseurs. Ben, là, il est un petit peu différent. Et ce que je vous demande, c'est de retenir simplement un chiffre. Pour le THC, tétrahydrocannabinol, eh bien, c'est ce chiffre qui est ici. Ça, c'est la dose efficace. Voilà, alors, on va avoir beaucoup de molécules, et toutes les fois, il va y avoir un petit peu ce petit triangle avec la dose. C'est là-dessus que je vais un peu m'appuyer pour montrer les effets. Bon, voilà, 30 milligrammes vous permettent de faire un petit voyage. Alors, bon, c'est pas un voyage extravagant, hein, quand même, hein, mais enfin, bon, un petit effet euphorique, et puis, si vous êtes dans de bonnes dispositions, eh bien, vous avez un imaginaire qui commence à être un peu plus débridé, et puis, bon, vous trouvez que les images que vous voyez sont agréables, les sons que vous entendez qui d'habitude sont peut-être un peu désagréables, deviennent agréables, et puis vous faites des correspondances, mais bon, c'est gentil. Et ça dépend de la quantité de THC qu'il y a dans le produit. Mais bien entendu, ça c'est quand on a une nature généreuse, quoi, hein, que l'on trouve que tout va bien. Par contre, vous avez des gens qui sont mal lunés, et ben eux, ils trouvent que tout va mal. Quoi. Voilà, c'est-à-dire, finalement, c'est général, la drogue révèle votre structure réelle, et donc, si vous êtes optimiste, vous avez toutes les raisons d'être optimiste. Si par contre, vous êtes plutôt pessimiste, vous avez toutes les raisons de devenir pessimiste. Voilà, c'est pas la drogue qui vous amène le bonheur, non, le bonheur il est à l'intérieur. Et si c'est difficile pour vous d'être heureux, alors tant qu'il vaut mieux éviter de prendre ces substances. Voilà, c'est-à-dire c'est plus un révélateur que non pas un truc qui va vous résoudre les problèmes. Non, si vous avez des problèmes, c'est pas la bonne méthode pour les vraiment les. Ou alors vous pouvez, pour les explorer, pour dire, ah ben oui, tiens, je suis vachement parano, hein. Donc, bon, ben, si vous décelez ça, arrêtez tout, voilà, n'allez pas plus loin, allez prendre un rendez-vous chez un psychologue, un psychiatre, je sais pas, enfin bon, alors bien sûr, bon, je fais une petite diapo là qui définira ça. Le problème, c'est que, c'est justement, vous avez compris que là, je suis en train d'expliquer un petit peu ce que c'est qu'un psychotique, quoi, hein, qui va être le ravi de la crèche à un moment, puis à un moment, oh, putain, complètement flippé, avec des angoisses épouvantables, quoi. Et c'est ça le risque, c'est que si jamais la personne est dans une structure pré-psychotique, alors les hallucinogènes vont activer sa machine à faire des hallucinations et peut-être même l'inscrire dans un délire. S'il n'a pas la chance d'avoir un ami qui lui tende la main et puis peut-être appeler le SAMU, quoi, il peut se faire une décompensation psychotique. Sa structure peut se casser la gueule, quoi, en gros. Et dans ces conditions, il faut vite bloquer le processus, parce que plus on attend, plus ça devient grave, quoi, voilà. Donc voilà, c'est le premier risque des hallucinogènes qui est de faciliter un petit peu quelque chose qui est un peu difficile à vivre, un peu dangereux. Et bien entendu, le drame, c'est surtout les gens qui sont justement inquiets du côté de leur structure, qui ne sont pas bien clairs, et qui ont une propension à rechercher ces putains d'hallucinogènes pour s'en gaver de façon outrancière, on va dire. Et là, ça résiste pas. Donc voilà, s'il y a un risque, c'est pour les personnes qui sont pas très bien équilibrées. Donc elles, ça doit être interdit. Mais ce problème, c'est comment l'interdire? C'est l'accès qui doit être interdit, mais vu que c'est interdit partout, tout le temps, toujours, eh ben, ça passe par-dessous. C'est souterrain, et si c'est souterrain, c'est illégal, donc, oui, c'est illégal, donc c'est souterrain, et si c'est souterrain, eh bien c'est aux mains de mafia, quoi, en gros. Et donc, alors, non seulement les produits sont dégueulasses, parfois, mais en plus, il n'y a aucun contrôle d'aucune sorte. Alors, heureusement, il y a des médecins qui sont assez sympas. Enfin, à l'époque, le centre Marmottan a fait avancer la cause, hein, bon, et, n'insiste pas. Donc, ces cannabinoïdes, eh ben, on les reprend, c'est toujours la même molécule, même si elle est à l'envers par rapport à avant. Ben, juste deux ou trois points. Le THC, finalement, ça c'est la formule générale. Vous voyez que pour le THC, c'est R1 égale R2 égale H. Voilà, R1, R2. Voilà, c'est deux positions. C'est un hydrogène ici, un hydrogène ici. À ce moment, vous avez le tétrahydrocannabinol. Si, par contre, vous avez un R1 et un R2, donc un R, ça veut dire radical en chimie, hein, donc dans ces positions radicales, R1 égale R2, c'est COH, une fonction acide, COH en chimie organique, c'est une fonction acide. Alors à ce moment, c'est l'OTHCA, Et puis si jamais en R1 vous avez COH, si en R2 vous avez H, à ce moment c'est encore un autre cannabinoïde. Bon, on ne rentre pas dans les détails, mais simplement il y a deux positions clés où on peut mettre ou bien un hydrogène ou bien une fonction acide, et à ce moment ça change la substance. Mais en gros, ces substances vont toujours aller dans le récepteur CB1, en gros, ou CB2. Donc ça ne nous change pas notre mesure. Voilà, le tétrahydrocannabinol, la molécule est à l'envers, vous trouvez les hydrogènes. Et voilà, alors, donc là, ce sont les cibles du THC. Voilà, donc on va prendre le THC comme détecteur de ces récepteurs. Et alors, je ne sais pas si vous êtes familier, mais voilà des courbes sagittales là, du cerveau, et tout ce qui est coloré, ça correspond à là où on a des grandes concentrations de ces récepteurs de THC. Alors, je vais vous en donner quelques-uns. Là, voilà l'amygdale, donc ça c'est le système limbique, pour l'essentiel, avec toute cette zone-là, on l'appelle système limbique. Donc, voilà l'amygdale, ici, voilà l'hippocampe, ici. Là, en connexion avec le système limbique, on a le noyau accumbens. Alors, bon, ça va être important pour d'autres phénomènes qu'on verra par l'année prochaine sur les problèmes de dépendance, mais là, on ne va pas intervenir beaucoup. On a un peu de l'hypothalamus, un petit bout de l'hypothalamus qui est ici. Bon voilà, ça c'est à peu près le système limbique sur le côté gauche. Sur le côté droit, on a l'écorce striée, c'est-à-dire le striatum. Donc ça veut dire la motricité, alors que le système limbique veut dire ici les émotions, au moins le point de départ, et puis beaucoup de phénomènes de mémoire ici. Et enfin, on a la même chose ici, mais c'est la coupe frontale cette fois. On retrouve donc bien sûr le thalamus qui est en bleu, l'hypothalamus qui est ici, le striatum qui est en bleu et vert ici et là. Donc on voit qu'il y a aussi beaucoup de récepteurs, et puis l'amygdale et puis l'hippocampe. Donc on retrouve les mêmes choses, hein, en gros. Donc en gros, peut-être le dernier point que j'ai pas trop développé, c'est que comme nous avons le thalamus et qui va piloter l'hypothalamus, nous avons la possibilité d'agir sur le système endocrinien. Alors, je crois avoir une autre qui reprend peut-être la même chose et qui donne alors les fonctions qui correspondent, donc toujours les cibles. Donc je vais les prendre dans cet ordre. Là, voilà le complexe amygdalien, donc l'amygdale, contrôle des émotions, l'anxiété, la peur. Donc c'est là qu'on voit quand il y a beaucoup d'angoisses qui sont générées, avec peut-être une version un petit peu paranoïaque. Donc c'est l'amygdale qui est ici, là. Voilà. Les ganglions de la base, ça correspond au striatum, c'est-à-dire à la motricité. Et voilà, c'est tout ce qui est en vert clair, ici. L'hippocampe, alors qu'est-ce qu'ils disent là ? Participe au contrôle et à la planification des mouvements, ainsi qu'au déclenchement et à l'arrêt de l'action. Voilà, c'est-à-dire, bon, c'est ce qui va vous donner l'impulsion pour agir ou ne pas agir. On va être plutôt un petit peu dans l'inaction, plutôt dans l'inhibition de l'action. Alors bien sûr, pour les gens très agités, ça les calme. Pour les gens qui sont calmes, ben ça les incite à plutôt faire de la méditation plutôt que de travailler comme une bête, quoi, en gros. Hein. Donc forcément, la productivité s'en ressent, quoi. Hein. C'est ça que ça signifie, quoi. L'hippocampe, hein, le pendant de l'amygdale. L'hippocampe, essentiel pour la mémoire et l'apprentissage des faits, des objets et des lieux. Voilà. L'hypothalamus, voilà bien. Alors, alors on a le thalamus, là. Bon, les flèches sont peut-être... Ah oui, voilà, si, c'est cette partie-là, pardon. Voilà. L'hypothalamus contrôle l'appétit, le système hormonal et le comportement sexuel. Donc, disons, ça va avoir une incidence, mais bon, c'est pas forcément désagréable, hein. Ça peut être justement peut-être une bonne qualité, au contraire. Et puis, nous avons le cervelaire, on l'avait évoqué, centre de contrôle moteur et de la coordination, donc pour avoir des gestes bien équilibrés, pour avoir une certaine marche et une démarche même. Et enfin, le tronc cérébral et la moelle épinière, important pour le réflexe de vomissement et la perception de la douleur. Voilà, alors ça aussi, c'est un atout majeur. C'est vrai que la première fois que vous fumez du hash, s'il est un peu fort, vous allez avoir tendance à vomir. C'est possible. Par contre, quand spontanément vous avez des grandes quantités de vomissements, et je pense aux patients qui sont traités contre des cancers, les chimiothérapies et autres, eh ben on ne trouve jamais rien pour soulager ces vomissements. Eh ben par contre, un joint fait merveille, quoi. Alors bon, ça fait que forcément, le nombre de patients qui sont touchés par des cancers et qui donc sont sous chimiothérapie, etc., du fait que depuis 1945, 4 août et 6 août 1945, qu'on fait craquer des bombes atomiques et des essais dans l'atmosphère, ou bien souterrain, ou bien machin, et qu'on balance des quantités pas possibles de produits cancérogènes, bien entendu, il y a beaucoup de cancers qui ne font qu'augmenter, et donc il y a beaucoup de gens qui sont traités, et ces gens souffrent, et en particulier de vomissements et de tout un tas de douleurs. Il se trouve que le THC vient inhiber non seulement le centre du vomissement, donc rassurer en quelque sorte l'organisme que le traitement de radiothérapie n'est pas un agresseur, donc parce que le vomissement c'est un réflexe pour essayer d'expulser un toxique, en gros. Donc ça calme, et puis par rapport aux différentes douleurs, ça calme aussi. Donc bien sûr, les malades se sont constitués en lobby pour faire pression sur la FDA, pour dire, bon, peut-être que c'est un stupéfiant, mais c'est un stupéfiant qui nous ravit. C'est-à-dire, moi, si j'ai pas 5 ou 6 joints par jour, je suis vraiment très mal, donc j'exige que, etc. Voilà, hein, vous comprenez le truc. Eh bien, là, voilà, c'est tout simple. Hein. C'est ici, à ce niveau, au niveau du bulbe rachidien, que le THC a un effet très bénéfique par rapport aux douleurs de tous ordres. Donc, alors, voyons maintenant que vous avez compris qu'on a donc une multitude de récepteurs, qu'on va appeler CB1 et CB2, dans le cerveau, où vont venir agir le THC. Ces récepteurs sont eux-mêmes présents pour pouvoir répondre aux neuromédiateurs qui s'appellent les cannabinoïdes endogènes. Et ces cannabinoïdes endogènes, eh bien, ils ont été identifiés en 1992 par William Devane. Et le premier d'entre eux, eh bien, c'est l'arachidonyl éthanolamide. C'est un nom à coucher dehors, parce que c'est un nom chimique. Quoi. Et le William en question doit être. Il est toujours vivant, il doit être assez bouddhique, parce qu'il a donné le nom, un nom à ce cannabinoïde endogène d'anandamide. Et Ananda, c'est le nom de la déesse de la sérénité, ou quelque chose dans la tradition védique, si ma mémoire est bonne. Donc voilà, ça laisse entendre que c'est l'amide d'Ananda, et qui donc laisse entendre que voilà, on peut avoir une certaine félicité grâce à cette substance endogène, donc, et que donc probablement, je pense que par la méditation, c'est une façon de, je pense, si c'est d'en produire plus, mais en tout cas qu'elle soit assez efficace, et ça colle avec beaucoup de choses qu'on sait par ailleurs. Donc ça a une action propre, mais ça a aussi un lien par rapport au second messager. Alors bon, ça c'est du jargon de la physiologie cellulaire. Hein. Pour qu'une cellule fonctionne bien, elle a besoin non seulement d'un premier messager, mais elle a aussi besoin d'un second messager qu'on appelle l'AMP cyclique, qui est lié à une protéine G. Alors ça, j'arrête mon jargon. Mais en tout cas, on sait que c'est un anandamide, là, est lié avec un procédé cellulaire très très important pour amener de l'énergie aux cellules nerveuses. Donc, et puis, toujours Maître William a mis en évidence les liens à plusieurs neuromédiateurs autres que l'anandamide, en particulier la dopamine d'une part, et puis les encéphalines d'autre part. Et puis, il note qu'il y a une forte concentration de cet anandamide dans le LCR, le liquide céphalo-rachidien, des schizophrènes. Et ça, ça vient faire une connexion avec ce que Moreau de Tours avait en quelque sorte posé comme hypothèse, que quelque chose était particulier chez ces patients. Voilà, donc là ça veut dire que depuis 92, donc ça fait quand même déjà une vingtaine d'années, on commence à voir un petit peu plus clair. Donc la dopamine, bien entendu, ça nous amène à un certain nombre de pensées du côté de, là aussi, de la dépendance. C'est-à-dire, bon, est-ce que ça peut donner une dépendance? On va voir qu'on va répondre non, malgré les esprits chagrins, non, ça ne donne pas de dépendance. Et puis l'encéphaline, les encéphalines, il y en a deux. Eh bien, le et met en céphaline, eh bien, elles vont être du côté du principe de plaisir. C'est-à-dire, ce sont des neuromédiateurs qui vont amener à un effet très très proche de la morphine. En gros, hein, on va voir ça l'année prochaine en long large, hein, mais en gros, on comprend que ça donne du plaisir parce que il y a une connexion entre l'anandamide et les encéphalines, et assez forte. Alors, non seulement il y a l'anandamide, mais il y a également un deuxième endogène, c'est le, donc il l'a appelé 2-AG, alors bon, comme vous voyez, c'est 2-arachidonylglycérol, mais là, c'est un japonais qui l'a isolé en 1997, Takayuki Sugihara, un nom à peu près approchant, voilà, qui donc a une action liée au glutamate et plutôt dans le sens d'une inhibition de la mémoire, et puis cette fois une action liée avec un second messager, mais pas l'AMP cyclique. Alors c'est encore un peu nébuleux, hein, donc simplement ça veut dire que on a à l'époque, hein, à la fin du siècle précédent, on avait déjà de bonnes pistes pour dire, bon, ben voilà, on voit que le THC s'inscrit vraiment au sein même de ce qu'il y a de plus essentiel dans le fonctionnement des cellules nerveuses. Alors, maintenant, reste le mystère, comment ce THC peut-il se débrouiller pour rentrer dans le récepteur de l'anandamide ? Eh bien, finalement, c'est tout simple. C'est que voilà la structure de l'anandamide. Je vous la donne ici, mais comme c'est très long, c'est une chaîne qui n'en finit plus. L'auteur l'a repliée. Donc voilà, on va commencer ici. Hein, c'est un alcool ici, puis on continue. Voilà la queue. Et puis, voilà le THC. On a écrit comme il faut. Et à ce moment, les auteurs, ayant fait les analyses et puis ayant écrit les structures, ça devient évident qu'il y a une partie commune. Il y a la partie commune, c'est que le THC est capable, grâce à sa queue, là, de venir dans le récepteur de l'anandamide, tout simplement. Et donc, venant dans ce récepteur, il va agir. Alors, là, je n'ai pas utilisé cette métaphore, mais on l'utilise toujours bon, elle est fausse, mais elle illustre exactement ce que c'est. La relation entre une substance et le récepteur, c'est comme la relation qui existe entre la clé et la serrure. Voilà. C'est-à-dire, si vous avez une certaine forme, vous faites jouer le mécanisme et vous faites bouger le pen, en quelque sorte. Hein. Dans un sens et dans l'autre. Et puis, vous savez plus fort encore, vous savez que, au Sofitel, il y a des gens qui ont des clés, et puis il y en a qui ont des portes, si je dis, sans que ça soit un hôtel de portes, hein, quand même. Bon, eh bien, donc vous avez des molécules qui sont capables de venir, même si c'est pas tout à fait pareil, sont venir occuper le nid du coucou, en somme, hein, et donc, ça va faire jouer le mécanisme, quoi, en gros. Voilà. C'est-à-dire, alors ça, c'est très très fort, parce que c'est complètement faux, bien sûr, mais au niveau moléculaire, ça se recouvre très très bien. Et donc, si jamais vous voulez comprendre quelle est la forme du récepteur, ben vous l'avez ici. Alors, je vais essayer de vous la dessiner. Voilà. Le récepteur, puisque ces deux molécules agissent sur lui, eh ben, je peux le dessiner. Voilà. Il est ici. Vous l'avez en creux. Finalement, alors il peut avoir n'importe quoi, c'est une protéine, probablement, qui a cette forme-là, un peu comme une vague, en somme. Et donc, vous pouvez remplacer ceci par cela, et inversement. Quoi. Voilà. Donc, spontanément, on a l'anandamide, il a son récepteur pour pouvoir agir, et ben, le THC, lui, vient en quelque sorte le remplacer de temps en temps. Et donc, puisque le THC donne des effets en venant dans le récepteur de l'anandamide, eh bien, on en infère que l'anandamide a un certain nombre de propriétés qui ne sont pas très très loin des cannabinoïdes, puisque tous les cannabinoïdes ont cette queue et donc viennent dans ce récepteur. Voilà, ça vous donne une petite idée de comment on commence à faire le lien entre une structure moléculaire et puis des effets cliniques. Simplement parce que l'année dernière, j'ai parlé du GABA. J'en ai même parlé la semaine dernière. Et donc, il se trouve que là, vous avez un neurone GABAergique, c'est-à-dire qu'il va fabriquer du GABA, comme vous le voyez ici. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel d'action qui arrive ici. Ça va mettre en mouvement ces vésicules synaptiques. Ils vont venir fusionner, enfin la membrane, les membranes vont fusionner et les molécules de GABA vont venir dans la fente synaptique ici et vous avez des récepteurs à GABA qui vont donc être agités et quand vous avez du GABA qui arrive sur les récepteurs GABA, ça provoque une inhibition du neurone, du deuxième neurone, en gros, hein, c'est-à-dire le GABA c'est le grand inhibiteur. Eh bien, les récepteurs CB de l'anandamide sont situés ici, sur la région présynaptique du neurone GABA. Alors, bien entendu, quand vous avez le système qui inhibe, vous avez aussi le contraire, c'est-à-dire vous avez forcément toujours un rapport de force avec un autre neuromédiateur qui lui excite. Pour pas dire surexcite. Donc vous avez toujours les deux acolytes, l'un qui inhibe, c'est-à-dire vous avez le frein en haut, et puis vous avez l'accélérateur. Et à ce moment, en régulant l'un par l'autre, on arrive à une régulation des quantités de réactions chimiques, bien entendu, mais également des différentes fonctions cérébrales. Et donc des fonctions mentales, voilà, en gros, voilà, quand vous êtes complètement inhibé, vous êtes sous l'emprise du GABA, et à ce moment, c'est bien sûr le glutamate qui va essayer d'exciter le système. Et quand vous avez une surexcitation due au GABA, comme dans le cas de l'épilepsie, par exemple, ben à ce moment, le recours de la machine nerveuse, c'est de faire appel au GABA pour inhiber. Voilà, on a donc une balance, un mobile de Calder, qui est tout le temps en train d'osciller. Et donc là, on a ici du glutamate qui va cracher, là, voilà, vous avez les récepteurs à glutamate qui vont vous donner un signal activateur, et pas de chance, si jamais vous avez du GABA qui est produit en grande quantité, il n'y a pas moyen de faire décharger ce neurone. Eh bien, le récepteur CB vient en quelque sorte moduler le GABA pour faciliter l'inhibition, en gros. Donc, l'anandamide vient donner une autre façon d'inhiber. Peut-être plus douce, plus je ne sais quoi. Et ça a d'autres effets. Alors, je crois que j'ai une autre, là voilà. Est-ce que c'est bon? Oui. Voilà, alors là, on a l'explication. Voilà, vous avez les endocannabinoïdes qui sont ici délivrés par d'autres sources qui viennent justement saturer le récepteur de CB1 et qui va donner un signal inhibiteur ici. Donc il n'y aura peut-être pas de GABA qui va être libéré et du coup le système va pouvoir décharger. Voilà, donc il y a une modulation de l'inhibition et de l'excitation, en gros. Alors, bon, là aussi, c'est un schéma qui est très, très vilain, mais bon, ça vient simplement rappeler que dans la membrane cellulaire du neurone, hein, on est au niveau cellulaire, vous avez le récepteur CB1 et l'anandamide vient en quelque sorte sur ce récepteur et ça va à jouer sur la protéine qui va venir inhiber l'adényl cyclase, qui va inhiber la production d'AMP cyclique, etc. Bon, et que la traduction, c'est qu'ici on va avoir une entrée de calcium qui va être restreinte. En gros, c'est-à-dire les ions calciques vont se. Ou plus exactement, le canal calcique va se rétrécir, du coup les ions calcium vont passer moins facilement. Voilà, ça c'est de la biochimie moléculaire, on va pas trop insister. Je sais pas si c'est lisible. Oui. Voilà, alors quelques informations sur un article qui est paru dans le Monde il y a 15 jours. Alors bon, c'est assez récent, donc ça veut dire qu'on a des chiffres qui ne sont pas trop anciens, parce que bien souvent c'est assez ça spirine très vite. Voilà, la résine de cannabis coûte plutôt entre 5 et 10 euros, comme vous voyez, alors que l'ecstasy c'est plutôt 5 euros, donc le cours est stable. La cocaïne, non mais c'est la bourse, hein, c'est... La cocaïne c'est 65 euros et l'héroïne c'est 45 euros. Voilà, alors, ça donne un ordre de grandeur pour avoir une idée de combien coûte un joint. Si par exemple on voit l'usage du cannabis. Qui est déclaré proportion d'adultes de 18-44 ans ayant utilisé au moins une fois du cannabis. Alors il y a différents sondages qui sont utilisés, ça permet de faire cette courbe, donc qui part de 91, donc au moment de la publication du rapport Rock, et puis 2005. Et là on voit que si c'était moins de 20%, 18%, admettons 91, voilà, là on est à 40%, c'est-à-dire de 20% on passe à 40%, ça a doublé, quoi. Voilà, donc les jeunes adultes fument quand même plus qu'il y a 20 ans, quoi, en gros, hein. C'est ça que ça signifie, et les très jeunes adultes, c'est-à-dire les adolescents, je crois que c'est une catastrophe, quoi, hein. C'est bien pire que ça. Voilà. Alors, bien sûr, par rapport à l'usage du cannabis, les législations sont impitoyables, même si elles ne sont pas trop appliquées. Voilà, c'est quand même 3500 euros d'amende et un an de prison. Voilà ce qu'on risque d'avoir un gramme de cannabis. Donc, avec une alternative thérapeutique qui permet d'éviter les poursuites si la personne accepte cette alternative, et donc là c'est j'ai plus le service de la protection, je ne sais plus comment c'est l'intitulé, SPIP, là, c'est autour de la maison de justice, en gros, il y a du personnel SPIP qui est en grève assez souvent parce qu'on leur réduit de façon incroyable le personnel et que du coup, déjà qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, si on réduit encore, c'est épouvantable. Alors là, oui, ça passe. Si on prend à peu près les contours de l'Union européenne, à quelques exceptions près, pour la Turquie en tout cas, on s'aperçoit que il y a une grande disparité. Voilà. Alors, ceux qui sont les plus, on va dire les plus laxistes, hein, pour faire simple. Alors, c'est la Russie. Qui ne fait pas partie de l'Union Européenne, donc, mais enfin, partie de l'Europe, quand même. Et donc, cette partie, voilà. Alors là, c'est dépénalisé à des degrés divers. Ensuite, la République tchèque et l'Espagne, donc ici et là. Donc, comme vous voyez, c'est toléré sous réserve. Troisième catégorie, c'est les îles britanniques, la Suisse, je sais plus si c'est la Croatie, là, l'Albanie, bon, c'est peut-être une plaque tournante, et puis enfin l'Estonie, et ensuite bah, le dernier carré où c'est complètement illégal d'avoir la moindre proportion de cannabis, donc bien sûr. La France, la Scandinavie, la Finlande, la Pologne, etc. Là, bon, toute cette partie, et théoriquement la Turquie aussi. Voilà, ben, je crois que là, ici, c'est le Portugal là, qui est de même teinte, donc complètement dépénalisé. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une grande disparité, ceux qui sont tolérés sous réserve, donc l'Espagne et les Pays-Bas, j'ai oublié, ici, et qui donc appliquent une technique. Alors maintenant ça a changé sous la pression de Bruxelles, hein, je sais, aux Pays-Bas. En gros, l'idée c'était que, eh bien, un peu à la façon de l'alcool, on s'aperçoit que la prohibition du THC, en tout cas, du cannabis, est complètement inefficace, et que donc, l'État prend ses responsabilités, c'est-à-dire donne au compte-gouttes des licences dans des coffee shops pour que des personnes puissent diffuser du cannabis qui soit en la meilleure qualité possible, et en quantité très limitée. C'est-à-dire, quand l'État veut contrôler, ben, il contrôle. Ils n'ont pas le droit de... À une époque, ils pouvaient vendre 10 grammes à chacun qui venait, puis ensuite, ça a été 5 grammes, puis maintenant, je crois que c'est 1 gramme, ou quelque chose comme ça. Alors, bon, apparemment, les Pays-Bas sont très, très contents. Oui, pardon. L'Allemagne, c'est... c'est toléré, mais moins que les Pays-Bas, hein. Oui, ouais, parce que les Pays-Bas et l'Espagne, c'est bon, je ne sais pas bien le truc, mais c'est libre, hein, quasiment. Donc, je finis, hein. Donc, de ce qu'on dit, c'est qu'aux Pays-Bas, les autorités sont très contentes, elles répondent aux émissaires de Bruxelles qui veulent les faire fermer les coffee shops, en disant, mais nous, on n'a pas de problème avec nos nationaux, on a des problèmes, par contre, énormes avec les vôtres, oui. C'est-à-dire, bon, ils rappliquent et puis ils voudraient acheter stock, quoi, hein, en gros. Hein. Ben, je sais qu'ils subissent des pressions énormes, hein, je crois. Bon, voilà, moi, il me semble que c'est comme pour l'alcool, le fait que l'État joue son rôle, il contrôle, il peut même prélever des taxes. Finalement, il le fait pour l'essence, il le fait pour l'alcool, il le fait pour le tabac, qui sont des molécules meurtrières, J'ai dit 60 000 morts pour l'alcool, 40 000 pour le tabac. Pour le cannabis, à ma connaissance, il y a zéro mort. Donc, tant si c'est un critère, la mortalité, mais enfin bon, il me semble que l'État pourrait dire, bon, bah tiens, on a 6 problèmes de remboursement de dette, ben, on va faire du business. Voilà, alors à ce moment, bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire ça, hein? Ben, ça veut dire simplement, je coupe les bras aux mafias qui font de l'argent avec ces substances, parce qu'elles sont illégales. À partir du moment où elles sont légales et que on a contrôlé, ben, peut-être que ça pourrait peut-être régler la question. Bon, je vous laisse. Alors, maintenant, ben, passons en revue les effets du THC. Donc, maintenant, vous êtes un petit peu familier avec tout ce que ça trame. Ben, il y a au moins 4 grandes familles d'effets. Alors, certains effets sont favorables, d'autres le sont moins. Donc, d'abord, prenons le dessert. Donc, le THC provoque des hallucinations, mais ces hallucinations, on fait comme on veut, quoi, hein. Une fois qu'on a mis le contact, on peut soit en rajouter, soit au contraire arrêter, puis à ce moment, bon, ça redescend tranquillement. C'est ce que j'appelle des hallucinations ménagées. Et deuxièmement, je vous l'ai déjà un petit peu laissé entendre, ben, ça révèle les dispositions psychiques. Alors, quand on est dans ce domaine, ça peut être ou l'euphorie, ou bien au contraire, son inverse, quoi, la dysphorie. Quoi, voilà. Donc ça dépend de la personne. On aura envie de favoriser ce qui est positif et moins ce qui est négatif. Donc à ce moment, il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion, quoi. De toute façon, c'est-à-dire, bon, si c'est vraiment trop angoissant, bah, il faut arrêter. Et ça, c'est facile. Il n'y a plus tiré sur le psy-psy, ou sur le pétard, ou sur ce que vous voulez, quoi. Hein. Vraiment, là, c'est pas pareil que quand vous shootez. Une fois que c'est parti, même si c'est de la strychnine, bon, vous ne pouvez plus répondre de rien. Par contre, là, bon. Non, mais il faut avoir affaire à des citoyens, quoi. Mais c'est pas de la guimauve, quoi. Ça, c'est vrai qu'il faut que ce soit des personnes qui prennent des responsabilités. Donc, je pense que les hallucinogènes demandent une certaine initiation. Exactement comme du vin, on ne met pas dans la barrique, non. On fait une dégustation, mais selon un certain rituel. Alors, ça autorise une certaine connaissance de notre monde intérieur, de nos pulsions, de nos désirs, bien entendu, et puis bon, si on peut les symboliser, c'est mieux que si on en est l'esclave. S'incline à la méditation, sur soi, sur les autres, et sur nos relations avec autrui, bien sûr. Et bien entendu, ça veut dire que, bon, fumer tout seul, c'est vraiment crétin, c'est aussi con que de boire tout seul, quoi, hein, en gros. Et alors du coup, bah oui, si on est bien, c'est en forme. Un club, quoi, de l'affichage, ou de je ne sais quoi, et donc du coup, c'est là où c'est un petit peu difficile de faire la part des choses, c'est qu'on est bien entre copains, et puis faire tourner le joint, etc. Je sais pas s'il y a une dépendance, mais c'est ça, c'est de ce côté-là. Elle est sociale. Ben, en général, quand on a les adolescents à bord, on peut faire qu'ils aient des liens, plutôt que pas de liens, quoi, hein. Et que donc du coup, peut-être que ça peut rattraper d'autres drames. Alors, bien sûr, ça amène aussi à une certaine vision angélique de la nature, hein, avec un effet de peut-être se centrer sur des petits détails qui deviennent énormes. Enfin, bon, voilà. Puis il y a des changements d'échelle, on retrouvera ça avec les autres familles. Mais surtout, je crois que c'est l'atout presque gagnant, là, c'est l'effet calmant de l'agitation et de la douleur. Voilà, donc ça fait un panel de choses qui fait que, bon, c'est assez favorable. Simplement, bien sûr, il y a des gens qui outrepassent et qui donc prennent les THC à haute dose. Bon, alors là, il y a un nouvel écueil, quoi, hein, on va le retrouver par une au finish, par un petit dessin, hein, c'est que il y a un grand risque. Et qu'on ne fume pas le cannabis tout seul, on met du tabac, et... on peut dire dépendant du tabac. Oh, c'est quand même con. Voilà. Là, l'autre versant, qui est moins mariole, hein, ouais, qu'il faut donc, je pense, dont il faut avoir conscience, c'est pas facile à l'aborder, mais on peut quand même s'y risquer. Donc, comme tous les hallucinogènes, le THC favorise les hallucinations. Donc, ben, attention quand on a une propension à avoir de l'allumage, quoi, hein. D'abord, c'est l'allumage. Il peut donc révéler des structures pré-psychotiques et aboutir ainsi à une décompensation psychotique. Voilà, alors ça, c'est une catastrophe. Et si c'est ça l'argument, comme quoi il faut l'interdire, avant, on disait, oh, c'est des conneries, maintenant, un petit peu plus dans la partie, il dit, non, c'est sérieux, quoi, hein, vraiment. Mais alors, à ce moment, il y a 1% de psychotiques. Dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures et autres. Alors, pour 1% qu'on veut protéger, puis ça, je crois qu'on les protège jamais assez, s'il faut interdire un peu de bonheur à tous les autres, c'est quand même raide, quoi. Hein. C'est un argument de poids, et je ne sais pas, à vous à faire votre choix, hein, votre idée, mais vraiment, bon. Et donc, malheureusement, sont toujours surtout les sujets pré-psychotiques qui recherchent vraiment activement ces substances. Voilà, parce que bon, ils sont inquiets du côté de leur perception, ils sentent que le monde est un peu hostile ou je ne sais quoi, et que donc ils ont envie d'en changer, et ils sont coutumiers. Je raisonne en avec le psychotique, lui, il ne peut pas voir la réalité telle qu'elle est, et donc il la refuse, et donc il va imaginer une néo-réalité pour mettre à la place. Quoi, voilà. Et donc forcément, s'il sait qu'on peut changer de perception, machin, naturellement, il va chercher des clés qui lui ouvrent d'autres machins qui vont peut-être le satisfaire, et du coup, il peut tomber dans un piège. La période la plus vulnérable est justement celle de la préadolescence. Et l'adolescence, c'est un peu difficile à la définir, mais c'est la recherche d'un autre modèle que le modèle familial, en gros. Et donc, du coup, il y a un moment où on va changer de paramètres, de coordonnées, ou de casting, ou de je ne sais quoi, et on va jusqu'à l'affrontement. Alors bon, voilà, donc c'est pas très. Voilà, il y a une rupture qui est nécessaire pour l'adolescent, et il doit devenir adulte, il doit faire sa propre place, et donc il s'en prend forcément à ceux qui l'emmerdent, quoi. Les parents, il n'y a pas de doute, là, voilà, on est dedans, et théoriquement, le père est en première ligne, et donc forcément, ça va durcir. Alors, pour aller un tout petit peu plus loin, il y a aussi une chose à remettre en avant, c'est une position de principe suite à ce qui se passe depuis les années 50, hein, c'est que la société, notre société plus exactement, est malade de la chimie. Et pour soutenir ça, je vais vous donner simplement un raccourci, c'est tout remède ne peut être que chimique. Alors ça fait un bout de temps qu'on nous le... On ne rentre dans l'esprit, c'est-à-dire, on est issu d'une culture où on ne voulait pas entendre parler des médecins. Voilà. Le monde paysan, moi, quand je serai malade, on m'enterrera, et puis voilà, je ne veux pas avoir affaire avec la médecine. Et donc, le monde de notre culture était réfractaire au monde médical. Et puis, petit à petit, on s'est débrouillé pour absolument tout médicaliser. Pour faire simple, avant la conception, je pense aux fibettes et tout le reste, jusqu'à la mort, il n'y a pas de doute, on a la médecine qui s'occupe de tout, absolument de tout. Et depuis, je ne sais pas le dater, mais Je vais dire que c'est encore ces années 60-70. La formation médicale, elle a comme objectif de faire qu'un médecin, c'est quelqu'un qui prescrit des médicaments. C'est peut-être un peu hâtif, mais vraiment, je vous l'ai déjà dit, je fais les études de biologie en parallèle avec les copains qui faisaient médecine. Hein. Et donc, les tuyaux, c'était des trucs... Voilà, et alors, ça c'est les années 60, dans les années, je ne sais plus combien, mais 80 et quelques, il y a eu le concours à l'issue de la première année de médecine. Voilà. Et ben, tous les examens ont lieu par QCM. Bon, alors QCM, non, est sympa, mais enfin, ça veut quand même dire qu'on n'a plus affaire à des littéraires, hein, puisqu'on n'a plus des tartines à écrire, mais on a des croix à faire. Voilà, premièrement. Deuxièmement, tous les copains ont toujours dit, putain, mais on est en médecine. On n'a pas fait un poil de médecine, on fait de la physique, de la chimie et des maths, en gros. De la biochimie, c'est ce qui est le plus magnifique, et puis un tout petit peu de sémiologie. La première année, c'est un bourrage de crâne, pas possible, sur la chimie, sur les médicaments. Et donc du coup, tout le système fonctionne comme ça, je crois, où il y a un problème... On a un médicament qui va pouvoir régler la question. Derrière, il y a un groupe pharmaceutique qui s'en occupe et qui donc machin. Et que donc, du coup, maintenant, tout problème va être réglé par la chimie, quoi, en gros. Voilà. Alors, bon, une fois que ça, bon, c'est seulement outrancier, vous retaillerez à votre façon, vous regarderez si c'est vrai ou pas, vous le rejetez, le rejetterez. Ce n'est pas un problème, ça. Alors, ajustez. Bon, alors, maintenant, revenons... Là où on en était, ben l'adolescence s'oppose au père par psychotrope interposé. Alors, là aussi, les adolescents actuels ont affaire à des pères. Alors, je dis père au sens large, hein, c'est l'adulte qui est chargé de faire, je ne veux pas dire la loi, mais enfin de donner quelques règles de vie. Hein. C'est pour ça que je lui mets un P majuscule. Et cette génération qui s'en voit terriblement, qui a même perdu les pédales, je crois, est quand même un peu encore dans la culture de l'alcool et du vin, quoi, en gros. Et que donc, du coup, en caricaturant encore, ces adultes, ça donne à l'alcool, à l'apéro, quoi, en gros, hein. Et donc, le fils qui va s'opposer au père, a tendance à s'y opposer par le psychotrope interposé, et donc il ne va pas prendre l'alcool, ou alors c'est l'alcool, mais alors, surtout pas du vin, je vous l'ai dit, c'est le binge drinking, hein, c'est-à-dire, bon, cul sec, 45 degrés, jusqu'à ce qu'on tombe par terre, par exemple. Alors là, la meilleure illustration que je connaisse, mais il y en a peut-être d'autres, c'est Ciao Pantin, de Coluche, là. Et là, c'est dit clairement, quoi, chacun sa drogue. Voilà, il y a le père, celui qui est en position de père, qui est un ancien flic, qui picole, et puis il y a le jeune, Anconina, qui lui, fume du hakik. Bon, l'heure des deux générations, qui est bien illustrée de façon sympa, quoi. Alors, bien entendu, se rajoute, si on prend le THC comme modèle, se rajoute qu'on ne fume pas tout seul, et que donc on fume en groupe. Et qu'on fait circuler le joint, bon, le plaisir c'est de finalement d'avoir un joint qui circule, puis on tire de temps en temps, puis bon, voilà, donc il y a un groupe de pères qui s'opposent à la famille nucléaire, quoi, en gros. Et que du coup, bien entendu, puisqu'on est contre, ils sont tous cons, ils sont tous je sais pas quoi, enfin bon, voilà, c'est vraiment le sac à merde, et donc on va se jeter à corps perdu dans le groupe de pères, et le groupe de pères, eh ben, il a des pseudopodes avec d'autres. Voilà. Et comme les hallucinogènes sont illégaux, bien entendu, c'est très excitant que de transgresser l'interdit, en gros. Alors, est-ce qu'on peut pousser plus loin, je ne sais pas. Mais donc, c'est ça, c'est que le groupe de pères doit s'alimenter, soit s'approvisionner plus exactement, et il s'approvisionne auprès de dealers. Et ces dealers font partie d'une organisation, qui est une organisation mafieuse, quoi. C'est pas philanthropique, quoi, en gros. Et c'est pas démocratique non plus. Et comme c'est souterrain, bien entendu, on n'a aucun contrôle. Et donc, c'est la loi du plus fort à ce moment. Alors à ce moment-là, on change presque de nature, hein, les effets du THC, du coup, deviennent finalement un facteur d'aliénation. Donc si on résume, la conquête de liberté qui s'effectue contre l'autorité parentale conduit l'adolescent à devenir l'obligé d'un dealer. En gros, hein, c'est-à-dire, bon, alors heureusement, il n'y a pas de dépendance. Ou très peu. Il n'y a rien de plus simple que d'arrêter. Voilà. Un tout petit peu de volonté. Je dis, le plus difficile, c'est tomber le tabac. Tous les copains qui ont fumé ont gardé la seule trace de la fumette. C'est la camelle, quoi. C'est pas compliqué. Donc, l'achat de substances classées stupéfiants justifie, engraisse, cautionne, renforce la contre-culture souterraine du trafic lié au grand banditisme international. Voilà, alors bon, j'espère que vous connaissez les sources, que donc vous connaissez que le principal fourgueur de ce THC, c'est finalement le roi du Maroc. En gros, pour faire simple. C'est tout bête. Notre ami le roi, pardon. Comme ça, la formule. Et que donc, du coup, oui, forcément, ça pose quand même... Ça pose problème, quoi. Oui. Et du coup, ben, comme c'est illégal, bien sûr, la police fait son boulot, et donc, du coup, ben, attrape un certain nombre de personnes. Alors, des trafiquants, de temps en temps, et puis beaucoup d'usagers, qui, eux, ben... voulant se procurer des substances illégales doivent aussi avoir de l'argent et pour ça des fois commettre des délits ou des crimes pour s'approvisionner. Et puis quand on prend l'ensemble des éléments, ben, on s'aperçoit que les hallucinogènes ont été popularisés par une contre-culture que j'appelle hippie à ce moment, mais qui a été complètement dénaturé par les mafias. C'est-à-dire, c'est difficile à le formuler, mais enfin, c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire, c'est des gens qui étaient peace and love, qui l'ont vraiment plus que mis en œuvre, qui l'ont utilisé, comme je vous le racontais encore la semaine prochaine, parce que là, je crois que le temps passe, hélas. Et puis que maintenant, ça devient non plus un élément de liberté, mais très risqué, et que c'est bien embêtant. Quand on prend le rapport Rock, donc de façon plus précise, hein, eh bien, il donne des tableaux sur les dangers des cannabinoïdes. Eh bien, il y a un certain nombre d'éléments qui sont utilisés pour toutes les drogues, donc dans un tableau qui est très compliqué, donc on n'y verrait rien, là j'espère que là vous arrivez à le lire, oui. Voilà, il y a plusieurs items, donc je vais vous les résumer, suractivation ou hypersensibilité dopaminergique, c'est-à-dire les relations qu'il y a avec la dopamine, parce que sinon ça, je vous l'ai dit, la dopamine c'est un petit peu le vecteur du principe de plaisir, il y a les encéphalines, mais la dopamine sert aussi à amorcer cette boucle, et bien là, Rock a été peu généreux, il a mis plus, ou plus ou moins. Alors, vous avez les autres qui tapent à 3 ou 4 étoiles, quoi. 4 plus, 3 plus, 3 plus ou moins. Si on prend l'activation du système opioïde, eh ben plus ou moins, alors que par exemple le pire, c'est l'héroïne, 4 plus, pour vous dire là ce que ça met en balance, hein, c'est-à-dire, rien que ces deux termes montrent que une drogue douce. Enfin, c'est, en tout cas, je ne sais pas si c'est une drogue douce, mais en tout cas, pourquoi on dit drogue douce? Bon. La dépendance physique ou psychique, les deux, mon capitaine, eh bien, elle est faible. Voilà. Faible dépendance physique, faible dépendance psychique. Alors, la différence entre les deux dépendances physique, c'est que vous avez besoin de la molécule. Et puis, psychique, vous avez besoin de faire l'acte de fumer. Eh bien, bon, il y a bien sûr des gens qui sont dépendants, même à l'eau, hein, même à tout profond français. Donc, il faut avoir un échantillon qui doit un peu, hein. Bon, vous prenez un joint, vous fumez, vous prenez du plaisir avec, puis vous restez 2 mois sans en prendre, puis vous recommencez, c'est pas pour ça que vous êtes accro. Le crack, paraît-il, une prise et vous êtes accro. Bon, il y a une petite nuance, quoi. Neurotoxicité, nulle. Ah ben oui, mais c'est logique. Hein. Sauf si... Ça, s'il y a de la merde dans le shit, quoi, hein, bon, d'où son nom, quoi, du reste, hein, au passage. Toxicité générale, très faible. Dangerosité sociale, très faible. Bon, sauf le petit problème que j'ai soulevé, quoi, de s'approvisionner, c'est illégal, et donc, du coup, par-dessous, quoi, et par-dessous. Et les substituts, tout le monde sait que c'est, on n'est pas dépendant, il n'est pas la peine de chercher des substitutions. Pas besoin de méthadone, de machin, voilà. Bon, alors, vous retrouverez ça hein, dans ce bouquin, voilà, le chapitre 10, page 177, il y a tout ça. Voilà, alors, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui disent bah, il faut que les drogues soient en vente libre. Alors, bon, en vente libre, ça veut dire... que ce soit contrôlé, quoi. Hein. Faut pas que ce soit n'importe quoi. C'est pas l'anarchie, quoi. Hein. Probablement. Pour ou contre la dépénalisation, en tout cas l'auteur, là, François-Xavier Coll, on porte déjà bien son nom. Alors, c'est un psychologue clinicien, hein, et qui donc, vraiment s'intéresse de près à ces. À ces personnes qui consomment. Hein. Alors, juste 3 arguments qu'il dit, je vous les donne parce que je les partage, mais à vous à voir si ça peut vous intéresser. Ce n'est pas la drogue qui tue. Alors, il parle de façon plus générale, hein. Là je le dis à propos du THC, mais c'est la drogue dure qu'il entend. C'est le contexte dans lequel les toxicomanes se débattent. C'est les conditions dans lesquelles les toxicomanes prennent ces substances qui les tuent. L'overdose. Donc ça, c'est je crois que c'est le vrai. La prohibition internationale des drogues est responsable de la criminalisation des usagers, de la circulation de substances frelatées et de l'impunité des organisations politico-mafieuses. C'est lourd, hein, mais c'est tellement vrai depuis 40 ans que j'observe ces questions, hein, que ce soit en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, en Afrique, au Liban, partout, c'est pareil. Pour mettre les Américains en dehors du pays, il faut des armes. Pour les armes, qu'est-ce qu'on fait? On plante du pavot, et puis, etc., on continue, machin, voilà. Alors, la CIA, je sais pas quoi, et puis, en fin de compte, bon, voilà. La planète est à feu et à sang, depuis 40 ans que je regarde un peu ce qui se passe. Bon, là, cette phrase, mais vraiment... Elle résume ça. La guerre contre la drogue est désastreuse pour tous les écosystèmes. Les conventions internationales et les lois en vigueur sont inadéquates et dévastatrices. Voilà, bon. Alors, on pense simplement à ce qui se passe au Mexique. Dieu sait si le Mexique est fertile en substances hallucinogènes, et il y a je ne sais pas combien de milliers de morts sur la frontière entre le Mexique et les USA. Bon, comment ça se fait? Parce que simplement, il y a les narcotrafiquants ont pris pouvoir Et dès qu'il y a un maire qui veut pas faire ce qui, je sais pas quoi, boum, voilà, et puis etc. Et les cartels de Medellin et tout le reste. Bon, alors, j'ai des bouquins à tour de bras sur les différents éléments, mais chaque pays, c'est ça. Voilà, l'Afrique, en ce moment, c'est invraisemblable. Bon, voilà, alors si vous avez le bouquin qui vous tombe dans les pattes, François-Xavier Coll, jetez un œil et puis réfutez ces arguments parce que vraiment ils sont extraordinaires. Et enfin voilà, pour en guise de conclusion, le dessin de Pessin là. Bon voilà, je vais peut-être arrêter parce que merci pour votre écoute et puis les questions sont ouvertes.